Aujourd'hui, à Rencontre, Jean-Loup Bernanos nous parle de son illustre père. Jean-Loup Bernanos est le dépositaire d'un grand nombre de souvenirs et de documents inédits qui éclairent les périodes les moins connues de la vie de son père. La biographie importante qu'il a écrite de Georges Bernanos nous fait mieux connaître et encore mieux aimer celui qui fut, selon Malraux, le plus important écrivain de son temps. Jean-Loup Bernanos est interviewé à Paris par Marcel Brisebois.
Jean-Loup Bernanos, à la page 449 de cette biographie, vous dites qu'il n'est pas facile de porter le nom de Bernanos.
Non, ça n'est pas facile. Et vous savez, je le sais d'autant plus que c'est lui-même qui me l'a dit. Lorsque nous étions en Tunisie, quelques mois avant sa mort, dans sa chambre d'hôtel, nous parlions de choses et d'autres, et à un moment donné, il m'a dit, tu sais, quand je mourrai, je ne te laisserai pas un nom facile à porter. Et à l'époque, ça ne me paraissait pas tellement évident. J'avais même pas 15 ans encore. Ce n'est que au fil des années que je me suis rendu compte que ça n'est pas facile de porter le nom de Bernanos, pas à cause de la célébrité de l'homme, mais à cause des exigences que cela implique. Porter le nom de Bernanos, c'est un petit peu essayer d'être tant bien que mal fidèle à l'esprit et à la pensée de Bernanos. Et ça n'est pas toujours très fidèle, très facile.
Une partie de votre récit, précisément, relate les difficultés que certains membres de votre famille, certains de vos frères en particulier, ont pu éprouver à porter ce nom de Bernanos, à être Bernanos.
Oui. Ça a été beaucoup plus difficile pour mes aînés, bien sûr, qui ont eu l'opportunité de vivre plus longtemps avec Bernanos. Vous savez, quand partout où vous allez, on vous parle de votre filiation, quand partout où vous arrivez, on vous dit vous ne pouvez pas ne pas faire mieux que tout le monde parce que vous êtes le fils d'un tel. Ben vous savez, au bout d'un moment, ça devient pesant. Bon, et quand vous prenez ça à cœur et que effectivement vous souhaitez être à la hauteur et être digne de ce que vous représentez, eh bien ça crée parfois des situations extrêmement pénibles.
Vous êtes-vous senti opprimé justement par cette figure du père? Il faut tuer son père, dit-on, enfin, dit-on,
oui.
Les psychanalystes. Est-ce que,
oui, il paraît que si on ne tue pas son père, on ne devient pas adulte.
Ouais,
alors, qu'est-ce que vous voulez, moi, je me suis résolu, à ne jamais être adulte, hein, parce que je n'ai jamais éprouvé le besoin de tuer l'image du père. Ce que je veux dire, si vous voulez, pour moi, la solution que j'ai trouvée pour surpasser ces difficultés à être le fils de Bernanos, eh bien je me suis jeté à corps perdu dans l'œuvre de Bernanos. Et je me suis mis à la servir à mon niveau, de mon mieux. Hein, et à force de vivre avec cette œuvre, de faire en sorte qu'elle me pénètre vraiment, a fait que petit à petit je me suis senti de plus en plus à l'aise. Cette biographie dont vous parliez à l'instant, il est certain que je n'aurais pas pu l'écrire il y a 20 ans. Et d'ailleurs, même l'idée ne me serait pas venue de l'écrire il y a 20 ans. Hein? Je l'ai fait parce que, à force de fréquenter cette œuvre et de récolter des témoignages un peu partout, et je me suis dit, maintenant, je peux porter témoignage. Mais je ne l'aurais pas fait il y a 20 ans.
Quelles étaient vos relations avec votre père ?
Oh, les meilleures qui soient. Vous savez, c'était quelqu'un qui était extrêmement proche de ses enfants et qui aimait jouer avec eux,
leur apprendre.
Il était sportif.
En
ce qui me concerne, c'est lui qui m'a appris à monter à cheval, c'est lui qui m'a appris à faire de l'escrime, c'est lui qui m'a appris à nager. Il avait toujours envie que ses enfants entreprennent des
C'était un camarade.
C'est exactement, c'est le mot. C'était beaucoup plus un camarade qu'un père. Parce que sur le plan de la paternité, ben, il y avait quand même pas mal de manques de sa part. Par exemple, il était d'une indulgence vraiment coupable. Quand il punissait ses enfants, il n'arrivait jamais à maintenir la punition. Il fallait qu'il la lève avant qu'on ait fini de l'accomplir.
Il se sentait puni lui-même.
Il se sentait encore plus puni que ses enfants. Et toutes les fois qu'il a mis un de ses enfants en pension, ça a été pour lui le rappel de ces années de pension personnelle qui ont été atroces, et il était prêt à retirer ses enfants s'il le demandait. Hein. Le résultat, c'est que mes frères et sœurs aînés ont fait je ne sais combien d'établissements différents, hein, parce que quand ils étaient trop malheureux, ils écrivaient au papa et le papa les faisait sortir aussitôt du collège.
Mmh. Mais est-ce que ça arrive souvent, de toute façon, pour des écrivains. Est-ce que vous avez pu être perçu, à un moment ou l'autre, comme un obstacle à la carrière littéraire de votre père ?
Oui, ça aurait pu être le cas pour mon père. Mais il écrivait dans les cafés. Il ne travaillait pas chez lui. Hein, il allait au café pour un certain nombre de raisons. La première, et je crois la plus importante, c'est l'explication qu'il donne dans la préface des Grands Cimetières sous la Lune, où il dit que c'est pour ne pas être dupe de ces personnages imaginaires, pour pouvoir, d'un regard jeté vers l'extérieur, juger de la présence humaine. Bon. Alors ça, c'était, la raison principale. Mais il donne une autre raison, il dit « J'écris dans les cafés parce que chez moi, mes enfants font beaucoup de bruit. Et ça me rend tout travail impossible. » Et il ajoute « Au café, les consommateurs font autant de bruit que mes enfants. Mais voilà, ça ne me dérange pas. Tandis que chez moi, je ne peux pas travailler parce que ce qui me gêne, c'est pas que mes enfants fassent du bruit, c'est que j'ai envie d'aller jouer avec eux. » Et je crois que ça aussi, c'est tout à fait vrai. Bon. D'autre part, mes frères et sœurs étaient des enfants, c'était quand même des petits Bernanos, ils étaient très bruyants, très vivants, ça s'amusait, ça se chamaillait, enfin comme dans toutes les familles où il y a une nombreuse famille, vous savez, je crois que ce n'était pas propre aux Bernanos. Et c'est certain que ça aurait pu parfois, s'il avait voulu travailler chez lui, ça aurait posé peut-être des problèmes. Mais là, ça n'en posait absolument pas.
Est-ce que votre père avait des projets sur ses enfants ? Est-ce qu'il souhaitait que ses fils, ses filles deviennent ceci, cela, etc. Et est-ce qu'il était, est-ce qu'il modelait une image, donc, sur ça ?
Non, il n'avait pas, si vous voulez, d'ambition très très particulière pour ses enfants. Il pensait pas qu'il y en ait un qui serait avocat ou médecin ou encore moins écrivain, parce que écrivain pour lui c'était une profession beaucoup trop dure, trop pénible pour qu'il souhaite à ses enfants de le choisir comme profession. Hein. Mais non, les désirs de Bernanos en ce qui concernait ses enfants portaient beaucoup plus sur un domaine des valeurs morales. Par exemple, dans une dédicace qu'il a fait à mon intention sur un exemplaire du journal d'un curé de campagne, il dit qu'il souhaite que Dieu me permette de vivre et de mourir comme un vrai chrétien français, n'ayant jamais tourné le dos ni à un ami ni à un ennemi. Bon. Et si vous voulez, l'éducation que nous avons reçue de notre père, c'est une éducation de ce style, de ce genre. Hein. C'est l'honneur, c'est quelque chose auquel on doit obéir, quelle que soit la difficulté qu'on puisse avoir. Hein. Jusqu'à aller poser la question, est-ce que l'honneur vaut plus que la vie ou la vie plus que l'honneur ? Hein, qui ne s'est jamais posé cette question, ne sait pas ce que c'est, ni l'honneur, ni la vie. Bon, en gros, c'est un peu là-dedans que nous étions bercés dans notre enfance.
Une morale un peu chevaleresque, si on peut dire.
Archi chevaleresque. Mm-hmm. Bon, et puis, la religion qui, pour lui, tenait une place essentielle. Et ça, je dois dire que s'il n'a pas parfaitement bien réussi dans tous les domaines, l'éducation de ses enfants, sur le plan religieux, ça a été un succès total parce que les six enfants ont une foi presque identique à celle de Bernanos, c'est-à-dire quelque chose qui, comme une certitude, quoi, qui est même, c'est même trop commode. Hein, parce qu'il n'y a jamais de doute, il n'y a jamais l'ombre d'un doute.
Quelles étaient ses relations avec votre mère?
Eh bien, ma mère était quelqu'un qui était très effacé, beaucoup trop effacé, et qui pourtant jouait un rôle essentiel. D'abord parce que c'est elle qui dirigeait la maison et qui s'occupait des enfants, à peu près dans tous les domaines, et ensuite parce que il avait besoin de la présence de ma mère. Hein, par exemple, s'il partait en voyage faire une conférence, il fallait qu'il emmène ma mère. Hein. Alors ça posait des gros problèmes quand les enfants étaient petits, parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour les garder. Parfois, c'était pas possible, donc il partait tout seul. Mais sinon, toutes les fois qu'il le pouvait, il emmenait ma mère, bien sûr pour lui faire plaisir, mais parce qu'il en avait besoin. Parce que elle lui servait constamment de température pour lui dire oui, c'est ce que t'as dit là, c'était bien. Oui, la conférence ça s'est passée, c'était très très bien. J'ai vu la salle comment elle réagissait. Enfin, elle était un petit peu son manager. Mmh.
Mais est-ce qu'elle a inspiré son œuvre?
C'est difficile de répondre à cette question. Évidemment, je pourrais vous dire tout bêtement, il avait surnommé ma mère pendant ses fiançailles un mouchette. Bon, et puis quand il a écrit Sous le soleil de Satan, tout bonnement, il a appelé son héroïne Mouchette, et quand il a réécrit la nouvelle histoire de Mouchette, c'était encore Mouchette. Alors on pourrait dire, ah, c'est un petit peu à travers des traits de sa femme, hein, qu'il a créé ces personnages, mais ça, je pense pas qu'on puisse l'affirmer avec certitude. D'autant plus que, si vous voulez, Bernanos est un romancier qui cherchait pas des personnages. C'était les personnages qui s'imposaient à lui.
Qui s'imposait à lui à partir de la vie courante ou à partir de rencontres ou qui s'imposait à lui dans son imaginaire.
Tous les personnages de son œuvre sont des personnages imaginaires. On a trouvé des tas de d'origines pour Denisant dans l'Artois, mais en fait tout ça c'est bon, il y a peut-être des parcelles.
Un trait pris ici
petit trait,
ou là.
Voilà. Ouais. Alors donc, c'est pas l'écrivain qui cherche en se disant « Tiens, il faut quelle personnalité pourrais-je donner à ce personnage ?»« Ben tiens, je vais donner la personnalité d'une telle. Ouais. » En l'occurrence là, ça aurait été de sa femme. Non, je ne le pense pas. Mais, cela dit, il a eu beaucoup de chance de tomber sur ma mère, parce que la vie qu'il lui a fait vivre était pas une vie très rigolote, surtout qu'elle avait été, elle n'avait pas du tout été préparée à ça. Elle était née à Rouen, dans une famille qui occupait vraiment une grande place dans la gentry de Rouen, rouennaise. Par sa mère, elle était descendante d'un des frères de Jeanne d'Arc. Tous les ans, il y avait des grandes manifestations à Rouen pour célébrer l'anniversaire de Jeanne d'Arc, et il y avait des processions. Et on avait demandé à ma mère de défiler à cheval avec une armure comme celle de Jeanne d'Arc et la bannière de Jeanne d'Arc à la main. Alors, vous savez, quand une jeune fille de 20 ans fait des choses comme ça tous les ans et qu'elle est montrée du doigt partout, en plus elle était deuxième raquette de France de tennis, elle jouait avec Suzanne Lenglen, hein, elle avait reçu l'éducation qu'on donnait à cette époque-là aux jeunes filles, c'est-à-dire on leur apprenait à tenir une maison magnifiquement bien, à faire la cuisine, à broder toute la couture.
Et tout ça a été bouleversé, évidemment.
Et tout ça a été bouleversé.
Parce que votre père n'était pas un homme commode. Quel était son caractère?
Oh, il était... Si, c'était pas un homme incommode. C'était un violent. Mm-hmm. Hein, ça, il avait des colères terribles. Et quand il était en colère, tout le monde avait intérêt à disparaître.
Je trouve ça sympathique.
Hein. Moi aussi, je trouve ça sympathique. Hein, mais quand on n'était pas habitué, ça faisait quand même peur. Hein, mm-hmm. Ça faisait peur. Mais ce n'étaient pas des colères méchantes. Et dès qu'elles étaient tombées, s'il avait été injuste avec quelqu'un, il s'empressait de s'excuser d'une manière ou d'une autre, ou verbalement, ou alors il y a des dizaines et dizaines de fois où il s'est fait pardonner en envoyant un livre superbement dédicacé à quelqu'un vis-à-vis duquel il avait le sentiment d'avoir été injuste.
Votre père était angoissé.
Ah oui.
Oui, il souffrait beaucoup d'angoisse.
Ah oui, d'angoisse terrible. Donc, on ne connaissait pas très bien l'origine. On peut supposer que ça venait de son enfance, parce que très jeune, il a failli mourir. Hein, et les médecins l'avaient condamné, il avait 18 mois. Et mon grand-père était allé à l'église proche de leur domicile pour prier. Et sur le porche de l'église, il a rencontré une dame à qui il a raconté ses malheurs et qui lui a dit, bah, écoutez, moi je reviens de Lourdes et si vous voulez, je peux vous donner une bouteille d'eau de Lourdes que j'ai ramenée de là-bas. Alors, mon grand-père, sans trop y croire quand même, a accepté. Il a amené ça à ma grand-mère qui était très croyante, mais elle ne croyait pas tellement aux vertus de l'eau de Lourdes dans une bouteille. Enfin bref, on en a donné au petit bébé, hein, et 3 jours après, la fièvre était tombée et il était sauvé. Mais en attendant, ça a dû lui le marquer, peut-être, petit. Bon. Et puis, il a eu toute une enfance assez souffreteuse. Hein. Et c'était terrible, parce qu'il avait une personnalité immense, hein, dans un corps fragile. Alors, le résultat, c'est qu'il était tombé tout le temps malade, sans arrêt. Alors, il se rétablissait, hein, il recommençait sa vie mouvementée, et hop, il retombait malade. Alors, est-ce que c'est de là que ça vient? C'est possible. Et il y a une troisième possibilité, c'est que pendant la guerre, il a été enterré vivant. Et il s'est réveillé sous la masse de terre. Et, guerre 14-18. Et il y a un de ses camarades qui avait été projeté sur lui, qui était mort, et son sang coulait sur Berlanos, qui a cru que c'était son propre sang. Quand on l'a déterré, il était presque asphyxié, presque mort. Et peut-être que ça vient de là. Toujours est-il qu'à partir des années 1920, il a eu des crises d'angoisse, mais vraiment terribles, hein, qui duraient des jours et des jours et des jours, et contre lesquelles il ne pouvait rien faire. À cette époque-là, il n'y avait pas de médicaments, hein, il n'y avait pas d'antidépresseurs, ça n'existait pas tout ça. Hein. Et quand on avait des crises d'angoisse, eh bien, il fallait attendre qu'elles passent.
Ce qu'on connaît mieux de Bernanos, c'est quand même ses engagements politiques, n'est-ce pas? Et notamment dans l'Action française. Est-ce qu'il a jamais regretté d'avoir milité dans l'Action française, qui a été condamné, qui a été, qui a joué un rôle?
Non.
Non?
Non.
Comment vous expliquez d'abord cet engagement dans l'Action française?
Ben, si vous voulez, ça vient de son enfance, puisque son père était royaliste.
Lui-même l'était.
Bernanos, oui, mon père était royaliste, oui. Mais son père l'était aussi. Et c'est de son père qu'il a hérité sa foi monarchique. Et tous les matins, alors que Bernanos avait 5-6 ans, son père lisait à haute voix les journaux d'Action française, et notamment La Libre Parole. Et le petit Bernanos, il entendait ça, il enregistrait tout ça. Et il a grandi dans cette ambiance, qui fait qu'à l'âge de 14-15 ans, quand on commence à s'intéresser aux questions politiques, hein, tout bonnement, il s'est tourné vers l'Action française, et même d'une façon assez particulière, parce que dans l'école où il était à cette époque-là, hein, qui était le collège d'Air sur la Lys, les gens étaient pour Marc Saigné. Mm-hmm.
Hein, le sillon, catholicisme de gauche.
Etc. Hein, et Bernanos c'était le seul à être pour l'Action française, ce qui a créé des grandes discussions, des disputes à n'en plus finir avec certains de ses professeurs. Bon. Et donc, si vous voulez, dès qu'il a commencé à s'intéresser à la politique, automatiquement, il a été dans l'Action française. Et quand il est arrivé à Paris, il a retrouvé un certain nombre de ses camarades de l'époque où il était lui-même élève à la rue de Vaugirard, hein, qui étaient entrés dans l'Action française et sont finalement tous inscrits en même temps dans les Camelots du Roi. Hein. Ils ont créé un groupe à l'intérieur des Camelots du Roi qu'ils avaient appelé les hommes de guerre parce qu'ils trouvaient que les Camelots du Roi n'étaient pas suffisamment agissants. Et bon, puis de fil en aiguille, Léon Daudet lui a demandé de prendre la direction de l'Avant-garde de Normandie, un petit journal monarchiste qui périclitait à Rouen, hein, et il est allé là-bas, il a remonté cette feuille de chou, hein, qui après marchait très bien, et comme ça, mais pendant la guerre...
Et ça a été l'entrée en écriture aussi.
Oui. Oui, mais si vous voulez, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que tous les témoins de ces périodes d'avant 14 disent que au fond, Bernanos militait dans l'Action française parce qu'il était royaliste, hein, mais bien souvent il se trouvait en opposition avec les directives que donnait l'Action française.
C'est ce que j'allais vous demander, n'est-ce pas ? Comment cet homme qui était croyant, et fermement croyant, n'est-ce pas, de façon fervente même, monarchiste, va-t-il tout à coup se trouver antifasciste? On aurait pu croire, n'est-ce pas, que c'était la voie royale qui conduisait au fascisme.
Ben, ça a bien failli y arriver.
Oui.
Ça a bien failli arriver, non pas qu'il soit... Enfin, là, on abandonne l'Action française, mais ça a bien failli y arriver, non pas qu'il ait été attiré par le fascisme, mais parce que quand il est arrivé en Espagne et que il y a eu la révolution, hein, et que les républicains ont commis des atrocités, et en fait aujourd'hui ce n'est un secret pour personne, hein, et que subitement est arrivé Franco, hein, qui se donnait pour mission de rétablir la monarchie, hein, et qui était protégé, couvert par l'Église catholique, ben, automatiquement Bernanos a dit bravo, hein, comme il l'a écrit un de ses amis, je vais voir enfin un général qui fait quelque chose.
Mais il s'est rétracté très vite.
Ben, il s'est
battu retraite.
Il s'est rétracté à partir du moment où il a vu que c'était une imposture monumentale, hein, et que les atrocités commises par les franquistes étaient bien pires que celles commises par les républicains.
Parce que finalement, c'est ce à quoi je voulais vous conduire, n'est-ce pas ? C'est que Bernanos est un homme de valeur.
Ah, certainement. Oui.
Et quelles étaient ses valeurs ?
Ben, ses valeurs, la principale de toutes de ses valeurs, c'était d'abord sa foi. Hein, ça, c'était, vous le disiez tout à l'heure, c'était quelque chose de viscéral chez lui. Mais c'était aussi un homme de valeur à travers tout ce qui, en fait, se rattache à la foi comme valeur, comme l'honneur, l'espérance, l'amour de la vérité. Et puis à travers ça aussi, c'est l'idée de patrie, l'idée qu'il se faisait de sa patrie, qui... Je n'ai connu qu'une idée comparable, c'est celle de Gaulle, si vous voulez. Quand vous retrouvez des écrits de Bernanos dans lesquels il parle à la France comme si c'était une personne. Mmh. Et c'est vrai que pour lui, c'était une personne. C'est quelque chose qui aujourd'hui ne vient plus à l'idée. Enfin, je crois que plus personne, hein, n'aime son pays, enfin en tout cas en France, n'aime la France de cette manière-là.
Mmh. On a dit souvent que Bernanos était antisémite. Est-ce que c'est vrai ?
Non.
Quelle était sa position à l'égard des Juifs ?
Ben, sa position à l'égard des Juifs, on la connaît surtout à partir de 1933, hein, c'est-à-dire à partir du moment où les Juifs ont commencé à souffrir quelque chose. Bon, de toute façon, Bernanos a pris une position extrêmement nette et sans ambages contre le nazisme. Bon, ensuite, il a dénoncé les camps de concentration. Il est d'usage, beaucoup de gens essayent de faire croire qu'en 1939 on ne savait pas qu'il existait des camps de concentration, parce que comme ça permet à beaucoup de gens de dormir tranquille. Bon, Bernanos les avait déjà dénoncés en 1938, donc c'est qu'ils existaient déjà, ils existaient aussi en 1939. Et Bernanos, il y a eu l'arrestation de, je cherche son nom, c'est Mandel. Et Bernanos est intervenu et a condamné cette arrestation. Et je crois que la meilleure façon de juger de ce qu'était pour Bernanos, de ce que représentait le monde juif et l'antisémitisme, si vous voulez, c'est de lire un article qu'il a écrit en 1947 en hommage aux juifs du ghetto de Varsovie, qui s'intitule « C'est l'honneur qui nous rassemble ». Et cet article a été cité par beaucoup d'intellectuels juifs, et en particulier quelqu'un qui s'appelle Arnold Mandel, qui malheureusement est mort aujourd'hui, et qui était le directeur d'un journal juif qui s'appelle L'Information juive. Et il a dit de ce texte de Bernanos que aucun écrivain qui ne soit pas juif n'a jamais aussi bien compris et aussi bien expliqué ce qu'était la position spirituelle du monde juif. Alors on a prétendu que Bernanos était antisémite parce que il a dit son admiration pour un écrivain du siècle dernier,
Drummond,
qui s'appelait Édouard Drummond. Et c'est vrai que Bernanos a eu de l'admiration pour cet Édouard Drummond. Ce qu'on nous lit, c'est que en dehors d'un livre qui effectivement est ignoble, qui s'appelle La France juive, Drummond a écrit d'autres livres qui traitent tout à fait d'autres questions, dans lesquels il dénonce le monde capitaliste de la fin du 19e siècle, et qui est tout à fait en conformité avec les idées de Bernanos.
Qui était nettement anticapitaliste. Et qui n'était donc pas de droite, parce que monarchiste.
Mais voilà. Il n'était pas de droite, il n'était pas de gauche. Et je crois qu'il était chrétien, c'est ça.
Jean-Loup Bernanos, je vous remercie.
C'est moi.
Rappelons que Jean-Loup Bernanos a publié chez Plon une importante biographie de son père, Georges Bernanos, à la merci des passants. Monsieur Wynne, qui serait l'œuvre la plus hardie de Georges Bernanos, selon Albert Béguin, est paru chez Plon dans la collection Presse Pocket. On trouve aux éditions du Seuil plusieurs des grands ouvrages de Georges Bernanos, Dialogue des Carmélites, d'après une nouvelle de Gertrude von Lefort, Les grands cimetières sous la lune, Scandale de la vérité, suivi de Nous autres Français, Sous le soleil de Satan, dont on a tiré récemment un film puissant, L'imposture, un autre roman majeur de Georges Bernanos. Ces 5 volumes sont parus dans la collection Point. Les œuvres complètes de Bernanos sont parues dans la collection de la Pléiade aux éditions Gallimard. Parmi les nombreuses études consacrées à Bernanos, mentionnons celle de Gérard Leclerc, publiée par Albin Michel, et le 4e volume de la revue québécoise Le Beffroi, consacré à Bernanos en décembre 1987.